I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Après plus de 6 mois de blocage, une aide de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine a été adoptée ce samedi par les États-Unis. Mais alors, pourquoi cette aide était autant attendue par l'Ukraine et que pourrait-elle changer ? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet donc à la une des actualités du jour. Alors, le 7 avril dernier, à quelques jours d'un nouveau vote de la Chambre des représentants aux États-Unis, la Chambre des représentants, c'est donc l'équivalent de l'Assemblée nationale, concernant un plan d'aide à l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré, je cite, « Si le Congrès n'aide pas l'Ukraine, l'Ukraine perdra la guerre ». Par ailleurs, dans une interview du président ukrainien que j'ai eu la chance de faire la semaine dernière et qui est sortie, vous l'avez sûrement vu, ce dimanche sur notre chaîne YouTube principale, eh bien, Volodymyr Zelensky m'expliquait pourquoi ce vote américain, qui a donc finalement eu lieu ce samedi, était important pour l'Ukraine. Il me disait que la situation à l'est de l'Ukraine était de plus en plus difficile pour les Ukrainiens et que l'armée commençait très concrètement à manquer de munitions. Se défendre face à la Russie est donc de plus en plus compliqué actuellement pour l'Ukraine.
Of course, 1 to 10 is about artillery, the number of using of artillery rounds, 1 to 10, and Russia has a huge number of artillery and systems and rounds.
Selon Zelensky, l'Ukraine a donc particulièrement besoin d'armes et de munitions pour faire face à la Russie qui a stabilisé ses positions sur de nombreux territoires ukrainiens et qui continue à progresser petit à petit sur certains espaces. Et on parle ici concrètement d'obus, de canons ou encore de systèmes anti-aériens pour faire face notamment aux attaques par drone ou par missile. Et par ailleurs, en plus de la pénurie de munitions, l'Ukraine fait face actuellement à une pénurie d'hommes sur le terrain. C'est notamment pour cette raison que Volodymyr Zelensky a récemment fait passer une loi qui abaisse l'âge de la mobilisation militaire de 27 à 25 ans en Ukraine. J'ai aussi eu l'occasion de revenir là-dessus avec Volodymyr Zelensky lorsque je l'ai interviewé la semaine dernière, si jamais ça vous intéresse. Enfin, troisième élément important qui menace la sécurité actuellement de l'Ukraine et qui renforce donc son besoin d'aide internationale, la Russie serait en train de préparer une nouvelle offensive entre mai et juillet, selon Volodymyr Zelensky. Une déclaration qui a été appuyée aussi par le chef du renseignement militaire ukrainien. Face à tous ces éléments, le patron de la CIA avait affirmé ce jeudi que sans l'aide américaine attendue depuis de nombreux mois, eh bien l'Ukraine pourrait, je cite, perdre sur le champ de bataille d'ici fin 2024. Et donc, finalement, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, ce samedi, la Chambre des représentants a donc voté un vaste plan de soutien à l'Ukraine à hauteur de 61 milliards de dollars, ce qui équivaut environ à 57 milliards d'euros. Et on en vient donc forcément à cette question, qu'est-ce que tout cela pourrait changer donc pour l'armée ukrainienne ? Bon, déjà, il faut savoir que depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, l'Ukraine compte énormément sur le soutien des États-Unis. C'est tout simplement son soutien militaire le plus important. Et de façon très claire, sans aide américaine et combinée à l'aide européenne, ce serait impossible pour l'armée ukrainienne de faire face à l'armée russe. On peut noter que depuis février 2022, les États-Unis ont déjà consacré plus de 110 milliards de dollars pour l'Ukraine. Ça correspond à titre de comparaison au PIB par exemple d'un pays comme la Slovaquie. Donc l'ensemble des richesses produites par un pays comme la Slovaquie en un an. Mais le problème, c'est que cette aide commençait déjà à être épuisée et depuis 6 mois, donc, la Chambre des représentants bloquait cette nouvelle enveloppe d'aide pour l'Ukraine. Pour bien comprendre ici, en termes de contexte, faut comprendre que la Chambre des représentants, elle est majoritairement composée de républicains, donc d'élus du camp de Donald Trump. Et en l'occurrence, eh bien, une bonne partie d'entre eux étaient opposés à l'idée de voter une nouvelle aide pour l'Ukraine. Leur argument, c'était que les États-Unis avaient déjà beaucoup aidé l'Ukraine et qu'il était donc temps, en quelque sorte, de penser avant tout, si je reprends leurs termes et leurs propos, aux Américains. Et d'ailleurs, on pouvait voir que certains élus conditionnaient leur soutien à cette nouvelle enveloppe pour l'Ukraine à, en parallèle, un durcissement de la politique migratoire américaine face aux arrivées de migrants à la frontière avec le Mexique. Mais donc, je le disais, finalement, cette enveloppe de 61 milliards de dollars, elle a été votée ce samedi avec 311 voix pour et 112 contre. Et c'est notamment le vote et le soutien de Mike Johnson, qui est le chef républicain de la Chambre des représentants, qui a permis l'adoption de cette enveloppe, à laquelle donc il était initialement opposé. Il a dit avoir voté pour cette enveloppe car, je cite, « il préfère envoyer des munitions à l'Ukraine plutôt que d'envoyer nos garçons se battre ». Alors pourquoi une telle déclaration ? Sûrement parce que Volodymyr Zelensky, ainsi que plusieurs responsables ukrainiens, estiment que si la Russie l'emporte en Ukraine, eh bien pour eux, Vladimir Poutine ne va pas s'arrêter là et pourrait s'en prendre à d'autres États, notamment des États européens membres de l'OTAN. L'OTAN, c'est donc cette alliance militaire menée par les États-Unis. Et en l'occurrence, si un État membre de l'OTAN est agressé ou attaqué, eh bien en l'occurrence, les autres pays membres de l'OTAN doivent venir en aide directe au pays qui est attaché. À noter au passage, il faut quand même le noter, que la Chambre des représentants a aussi adopté 4 textes séparés en fait, et c'est un total de 95 milliards de dollars d'aide. Il y a donc une grande partie qui va pour l'Ukraine, mais aussi une partie qui va pour Israël, pour Taïwan, et une aide humanitaire aussi pour les Palestiniens. Alors suite à cela, Volodymyr Zelensky a réagi sur X, se disant, je cite, reconnaissant envers les élus américains et estimant que cette aide empêchera la guerre de se propager et qu'elle sauvera des milliers et des milliers de vies. Du côté russe, le porte-parole du gouvernement, Dmitri Peskov, a estimé que cela, je cite, tuera encore plus d'Ukrainiens. Alors très rapidement, à quoi va servir maintenant cette aide ? Faut comprendre que c'est pas une somme d'argent qui est envoyée comme ça en cash ou en virement à l'Ukraine. En fait, cet argent, le gros de l'argent, il reste aux États-Unis, mais il va servir à financer donc de l'armement, des stocks, etc., qui eux ensuite donc vont partir en Ukraine. À noter qu'il y a aussi une partie qui sera dédiée à l'assistance économique pour les secteurs de l'énergie et des infrastructures en Ukraine, alors que on en a déjà parlé dans l'actualité, mais ces derniers jours, de nombreuses infrastructures énergétiques ont été touchées par des bombardements et par des frappes russes. L'enjeu, en tout cas ici pour l'armée ukrainienne, c'est à minima de savoir résister face à l'offensive russe qui pourrait donc se dérouler dans les prochains mois. Les textes doivent encore être envoyés au Sénat, qui devrait les voter dès mardi, et puis ensuite il y aura la signature par le président Joe Biden, qui a promis de signer immédiatement. On suivra donc ce qu'il en est. En tout cas, ça me permet donc de faire un lien forcément avec la vidéo qu'on a sortie dimanche. J'ai interviewé la semaine dernière le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour revenir justement sur tous ces sujets-là, mais aussi sur d'autres sujets. On parle de l'implication de la France, de cette question donc qui revient souvent avec les propos d'Emmanuel Macron de l'envoi potentiel de troupes françaises. Je l'interroge aussi sur la question de la menace nucléaire ou de la question de Vladimir Poutine. Ça donne un échange de 45 minutes qui est disponible directement sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Pour ça, vous tapez Hugo Décrypte Zelensky sur YouTube, je pense que vous allez pouvoir le retrouver. Autrement, je vous mets le lien directement en description. Je pense aussi que dans la semaine, je vais faire une sorte de FAQ sur Instagram en story pour répondre aussi à toutes vos questions sur les coulisses de cette interview, parce que forcément, ça s'est fait dans un cadre extrêmement particulier. Merci beaucoup en tout cas pour votre confiance et tous vos retours là-dessus sur cette vidéo. C'était forcément beaucoup de travail, c'était quelque chose d'une semaine assez intense, mais ça me paraissait important et intéressant de pouvoir vous proposer ça. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le chanteur Kenji Girac a été blessé par balle au niveau de la poitrine dans la nuit de dimanche à lundi. Ça s'est passé sur une aire de voyage dans la commune de Biscarrosse dans les Landes. Kenji Girac a été hospitalisé dans un hôpital de Bordeaux et son pronostic vital n'est plus engagé depuis ce lundi matin. Alors selon les informations de BFM TV, le chanteur âgé de 27 ans aurait expliqué aux enquêteurs qu'il s'agissait d'un accident domestique à la suite d'une mauvaise manipulation d'une arme à feu qu'il avait achetée la veille dans une brocante. L'arme à l'origine du tir aurait été découverte dans un fossé, selon une source proche du dossier interrogée par BFM. Une enquête a été ouverte. Deuxième actu, l'année 2023 a été marquée par des pics de chaleur records et des inondations hors normes en Europe, selon le rapport annuel sur l'état du climat de l'Europe de l'Observatoire européen Copernicus qui a été publié ce lundi. Concrètement, le rapport souligne que des températures supérieures à la moyenne ont été enregistrées pendant 11 mois sur 12, que les mers et les océans se réchauffent et que l'Europe a fait face à des incendies massifs, comme en Grèce par exemple l'été dernier. Tous ces événements climatiques ont coûté près de 13 milliards d'euros et ont fait plus de 140 victimes en Europe. D'après le rapport, les phénomènes météorologiques extrêmes risquent de se multiplier dans les années à venir si la lutte contre le changement climatique n'accélère pas. Troisième actu, le procès en appel de l'attentat de Nice s'est ouvert ce lundi à Paris et il se tiendra jusqu'au 14 juin. Alors pour rappel, l'attentat de Nice, c'est un attentat au camion Bélier qui a tué 86 personnes, dont une quinzaine d'enfants, sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. C'est le deuxième attentat le plus meurtrier commis en France après les attaques menées contre le Stade de France, la salle de concert du Bataclan et des terrasses de bars et de restaurants à Paris le 13 novembre 2015. Et donc pour ce ce procès, les accusés sont Mohamed Graieb et Chokri Chafroud, qui sont des proches de l'auteur de l'attentat. En décembre 2022, ils ont été condamnés en première instance à 18 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes, car ils sont soupçonnés d'avoir, je cite, « eu conscience de l'existence du projet d'attaque de l'auteur de l'attentat ». Mais ils ont donc décidé de faire appel de cette décision, on suivra ça. Quatrième actu, toujours en France, le projet de loi sur la fin de vie est arrivé ce lundi à l'Assemblée nationale. Un projet de loi, c'est une loi qui vient du gouvernement et non des députés. Il sera examiné pendant un mois par une commission spéciale avant qu'une première version du texte soit proposée aux députés à partir de fin mai. Alors l'objectif, c'est que cette aide à mourir soit réservée aux patients majeurs, nés en France ou résidant depuis longtemps dans le pays et qui sont capables de discernement. Les patients atteints de maladies psychiatriques ou neurodégénératives, comme Alzheimer par exemple, ne pourront donc pas y avoir recours. Il faudra également que le pronostic vital de la personne soit engagé à court ou moyen terme. Et donc si une équipe médicale approuve la demande d'aide à mourir d'un patient, elle lui prescrira une substance létale, donc mortelle, qu'il devra ensuite s'administrer lui-même ou avec l'aide de quelqu'un, un proche ou un soignant, s'il n'est pas capable de le faire seul. On suivra ça. Cinquième actu, en Géorgie, un pays situé à l'est de la Turquie, le Parlement a adopté mercredi dernier en première lecture un projet de loi controversé sur l'influence étrangère. Ce texte, qui est calqué sur une loi russe qui vise à réduire au silence les journalistes et la société civile, obligerait les entreprises du pays qui reçoivent au moins 20% de financement étranger à s'enregistrer sous l'appellation « organisation servant les intérêts d'une puissance étrangère ». Cette décision pourrait donc mener à la fin de la presse indépendante, par exemple, qui vit grâce au soutien de bailleurs de fonds étrangers, car le projet de loi pourrait permettre aux autorités de confisquer les ordinateurs des journalistes et donc d'accéder à leurs sources. Face à ça, des manifestations ont été organisées dans le pays pour protester contre cette loi, on vous tiendra au courant. Sixième actu, la prochaine pandémie sera causée par le virus de la grippe, selon une enquête internationale menée par des scientifiques et dévoilée ce samedi dans le média britannique The Guardian. En fait, près de la moitié des scientifiques derrière cette enquête pensent qu'une variante de la grippe pourrait être responsable de la prochaine épidémie mondiale, car le virus de la grippe évolue et mute constamment. Cette étude est sortie quelques jours après que l'Organisation mondiale de la santé a exprimé son inquiétude face à la propagation de la souche H5N1 de la grippe aviaire sur des nouvelles espèces d'animaux. La crainte, c'est que le virus du H5N1 s'adapte pour devenir capable de se transmettre d'humain à humain et non plus seulement de l'animal à l'homme. Et on finit avec cette actu, la Chambre américaine des représentants a voté ce samedi une proposition de loi visant à interdire l'application chinoise TikTok aux États-Unis. La plateforme est accusée par les responsables américains de permettre à la Chine d'espionner et de manipuler les 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Cette interdiction doit désormais être validée par le Sénat et en cas de validation, la maison mère de TikTok, ByteDance, aura donc 12 mois pour vendre le réseau social, sinon elle sera exclue des boutiques d'applications de Google et Apple aux États-Unis. On suivra ça.
Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.